Vous écoutez
RMC. RMC, 22h, minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Il est 23h27, on continue le débat argentin avec Georges Pirino Chavez qui est là, Stéphane Guy, Daniel Riello. Prolongation toujours en cours entre le Real et l'Atlético. Demain pour le Real, à 3 minutes maintenant de la fin de la prolongation. Fred Hermel sera avec nous dans un gros quart d'heure pour analyser tout ça. Oui, Georges, déplaçons le terrain un peu sur le terrain parce qu'il y a donc effectivement eu le match face aux Pays-Bas avec tir au but. Le match face à la France avec tir au but. Dans quelle mesure est-ce que cette façon de vivre le football avec une espèce d'intensité un peu différente, on va dire, avec une volonté parfois et une réussite à faire péter les plombs aux mecs d'en face, est-ce que ça les a aussi aidés à être champion du monde en fait? Parce que bon ben ils ont aussi du répondant dans la réponse sur le terrain, parfois dans le trash talking avec les Hollandais pendant la rencontre. On se souvient de la fameuse photo de chambrage à la fin.
Hein. Ouais ouais.
Donc en fait ça fait partie aussi de leur force footballistique, tout ça.
Non, mais là, ils se sont alimentés de ça, très clairement. Après, parfois, dans leur histoire, ça a pu être une pression négative, justement, d'écouter tout ce qu'ils disaient à côté. C'était une charge émotionnelle énorme. Là, le problème, c'est que, enfin, ce qui était bien pour eux, c'est que cette équipe, elle allait bien, en fait. Donc, du coup, tout ce qu'ils ont pris autour pour s'alimenter, ça leur a servi. Enfin, Martinez l'a dit avant le match face aux Pays-Bas, et ils avaient imprimé tous les trucs de Van Gaal pour se motiver. Ça leur a servi pour la séance de tir au but pour se motiver. Avant la finale, pareil, je pense qu'ils sont motivés avec les trucs d'Mbappé. Donc c'est vrai qu'ils sont très comme ça, d'aller chercher en dehors des ennemis aussi, les Argentins, pour ouais, exactement, d'aller chercher des ennemis pour se dire, enfin, même plein de fois pendant la Coupe du Monde, j'ai entendu, alors que c'était pas forcément vrai, hein, de dire, mais de toute façon le monde est contre nous. Sur le côté, ça y est, on nous présente comme des voyous, comme tu disais.
Ouais, alors ça, c'est soit un peu artificiel. Pardon,
l'arbitrage est contre nous, alors qu'ici, tout le monde disait, mais l'Argentine est aidée par l'arbitrage. Tout ça.
Ce que pensent les joueurs français et le staff français, c'est que tout a été fait pour que l'Argentine gagne la Coupe du Monde. Tu vois, ce qui est une pensée totalement à l'inverse, qui est dans mon sens, aussi ridicule.
Oui, aberrante,
Non, mais du coup, toute cette charge-là émotionnelle, au final, leur a servi. Hein. Je sais qu'on a beaucoup rigolé même de Scaloni ici en France quand on le voyait s'émouvoir, pleurer même avant la finale de la Coupe du Monde. Au final, ça a servi tout ça. Hein. On pensait que ça allait être un poids. Il a même dit lui il y a quelques jours. Moi, j'ai pas réussi.
Non, mais il y a une façon très émotionnelle de vivre les choses.
Scaloni a raconté pour la première fois sa causerie avant la finale de la Coupe du Monde. Il a dit j'ai fait deux phrases, j'ai pas réussi à terminer. Aymar à côté de moi, son adjoint a essayé de reprendre, il a pas réussi. En fait, ils étaient comme ça pendant toute la Coupe du Monde. C'est-à-dire qu'ils se sentaient investis d'une mission et toute cette émotion-là, qui peut sembler peut-être négative en dehors, leur a servi et les a alimentés. Et moi, finalement, ça ne m'a pas étonné. Je vous en parlais même avant la Coupe du Monde parce qu'ils avaient ça autour d'eux. Ils avaient cette espèce d'aura où ils sentaient quelque chose les accompagner et finalement, ils semblaient assez insubmersibles, même après ce premier match. Quoi. Mais ils avaient quelque chose en plus et ils se sont servis de ça, très clairement.
Allez, on va parler de l'avenir de l'Argentine dans quelques instants, mais d'abord, on a Mimoun au 32-16 qui est là. Salut, Mimoun.
Ouais, salut les gars, bonsoir.
Ça va, tu nous entends bien?
Ouais, je vous entends bien, vous.
Oui, ça va, la liaison n'était pas top.
Mimoun, c'est ton prénom, hein, c'est pas ton nom.
Ouais, c'est mon prénom, exact.
Ah, toi, tu faisais référence à Alain.
Ah bah, Alain Mimoun, c'est le plus grand sportif français de tous les temps.
Ah
bah oui, attends. Avant qu'un Français regagne le marathon des Jeux Olympiques, Daniel, je sais pas, on sera mort.
En picolant.
Extraordinaire sportif.
Vous connaissez à l'époque la tradition du marathon. C'est que Mimoun, donc...
Non, je connais pas ça.
Attends, vas-y, raconte. Excuse-moi, Mimoun. Hein.
Ah non, mais y a pas de problème.
Alain Mimoun, 56, il faisait 40 degrés à Melbourne, ouais. Départ du marathon en pleine journée, genre, tu vois, évidemment.
Je vous conseille, si vous allez au musée du sport à Nice, de regarder les chaussures, parce qu'elles sont exposées, les chaussures avec lesquelles Alain Mimoun a gagné le marathon de Melbourne.
C'est pas tout à fait celle de Kipchoge, quoi.
Non, pas tout à fait. Ça ressemble plus au crampon de Messi.
Et donc, à l'époque, les marathoniens considéraient que s'arrêter pour boire pendant un marathon, c'était une perte de temps. Alors que maintenant, on te dit, il faut boire tous les 5 km, si tu bois pas, t'es foutu et tout. Donc, qu'est-ce qu'il faisait pour se couper la soif? Un verre de Niol avant le départ. Hop! Et hop, ça partait.
Ça, c'était comme le premier coureur du Tour de France, hein. C'était pareil.
Hein. C'est incroyable. Oui, il a dit comme ça, là, avec son petit mouchoir sur la tête, là. Bref.
Qu'un Italien, tiens, le premier vainqueur du Tour de France, Maurice Garin. Donc, j'ai toujours pensé que c'était un bon Français de chez nous. Bah, pas du tout, c'est un Italien. C'est Garini, en fait, son vrai nom. Oh. Et j'ai appris ça dans
c'est
un excellent bouquin.
Ouais,
mais il y a un excellent bouquin sur que vient d'écrire notre ancien confrère de l'équipe avec Daniel Cohn-Médi, Patrick Lemoine, qui parle de ces. Alors, comment il appelait le livre? C'est en gros, c'est surtout ces étrangers qui ont marqué l'histoire de notre pays, mais dans toutes les disciplines et de tout temps. Et il raconte notamment cette belle anecdote sur le premier vainqueur du Tour de France, un Italien.
Mimoun, après cette longue introduction, tu as la parole.
Pas de problème. Bah, j'en profitais parce que moi, pendant toute la Coupe du Monde, j'ai un peu suivi la hype qu'il y avait autour de l'Argentine. Moi, que j'ai pas personnellement compris. En plus, ils ont gagné, mais moi, j'ai pas trop aimé, en fait, ni le jeu, ni la méthode. Je pense que tout le monde a supporté l'Argentine, parce qu'à part les Argentins, bien sûr, parce qu'il y avait Messi, il y avait une histoire derrière. Mais le jeu pratiqué, la garcerie, tout ça, moi, je trouve que c'était pas, ça relève pas une super équipe. Mais après, quand ça s'est confirmé après leur victoire, la façon de se moquer, moi, je veux bien qu'on dise que c'est une culture chez eux, je veux bien. Mais au bout d'un moment, moi, je regarde avec mon prisme de Français. Donc, je comprends de l'autre côté, mais je trouve que c'est tout à fait normal qu'il y a des choses qu'on n'a pas acceptées, qu'on ne doit pas accepter. Je trouve que le truc de raciste, oui, ça a été dit, il y a quelques supporters que tu, mais il y a beaucoup plus que quelques supporters. Je pense que Georges Kerinov sait aussi très bien que voilà, c'est, il y a une manière d'aborder peut-être, je sais pas, moi, je connais pas le côté social ou je sais pas quoi du pays, mais je trouve que la manière d'avoir abordé cette question de racisme en disant c'est rien, c'est dans l'euphorie. Non, même s'ils ont été peut-être choqués, heurtés par des paroles d'Mbappé.
Franchement, j'en peux plus.
Il y a eu des gens racistes.
Mais il y a eu trois mecs. Mais c'est pas tout le pays qui est raciste, mais qu'on arrête de faire chier les Argentins. Il y a eu trois mecs qu'on fait dans la rue. C'est quoi? On fait référence aux images sur BFM? On fait référence aux images sur BFM. Où il y a trois abrutis. Mais il y en a dans tous les stades en France. Occupe-toi des stades en France déjà.
Mais quel est le rapport? C'est pas parce qu'il y a des choses qui se passent dans un autre pays.
Mais alors, va pas donner des leçons ailleurs dans le monde.
Mais s'il y a des actes racistes ou qu'ils soient, tu les condamnes. C'est tout.
Mais bien sûr, tu les condamnes. Mais là, c'est juste parce qu'il a perdu. Il est dégoûté d'avoir perdu. Et il cherche ta petite bête dans les. Il cherche les poux dans les cheveux de tous les Argentins.
C'est trop facile de crier sur les gens et de ne pas les laisser parler.
Oh là là. Mais on fait que ça, de laisser parler. On entend des conneries.
Il a raison.
C'est pas mon problème. Tu peux t'exprimer. Des conneries ou des bonnes choses, c'est ton problème. Moi, je dis ce que je pense, en tout cas. Personnellement, moi, je n'ai pas la haine, je ne sais pas quoi. Tout, je ne suis pas un bon champion. Maintenant, ils ont gagné, On a perdu,
Voilà.
C'est pas grave.
Non, mais ils ont. C'est sûr. À la fin, c'est à finir. Tu dis,
Daniel, s'il te plaît.
Non, mais avant, ils taillent dans tous les sens et après, ils disent.
Moi, je dis juste très simplement qu'il y a des choses qu'il ne faut pas minimiser, qu'ils soient ici ou là-bas. C'est le premier point.
Mais personne n'a minimisé. Mais qui a minimisé? Qui a minimisé?
Alors, je vais t'expliquer. Quand j'ai écouté bien RMC, parce que j'écoute RMC, je kiffe. J'ai écouté RMC à la fin quand on a gagné. À chaque fois quand on a perdu, on lançait comme quoi, ouais, c'est super pour le pays de l'Argentine, comme ils sont un peu dans la difficulté économique.
Et donc, alors,
ça tombait un peu.
Et tu voulais qu'on dise quoi?
Si tu me poses une question, moi je peux terminer ce que je pense, même si ça te plaît pas, je termine, Daniel, y a pas de souci. Moi, ce que je dis juste, c'est que c'est pas parce qu'une équipe gagne ou a des difficultés, je sais pas quoi, que lorsqu'il y a des choses qui sont déplacées, comme la poupée, comme le truc, je trouve que c'est des choses qu'on doit aussi en parler.
Mais on a parlé. On a fait que ça en parler. Ça du matin au soir. Il y a même Noël Le Graët qui a envoyé une lettre.
T'es obligé d'y
aller. Mais c'est pas mon problème de Noël Le Graët. Si je me parle de Noël Le Graët.
Mais c'est le président de la Fédé. Tout le monde s'en est plein. Limite le président, ça a fait l'ouverture du 20h. Comment tu peux dire qu'on en a pas parlé?
Daniel, sur les actes racistes, sur les actes racistes, il y en a eu. On les a condamnés. Il y a eu un chant avant la Coupe du Monde. Il y a eu un chant avant la Coupe du Monde. Je me souviens sur Mbappé.
Il y a eu deux mecs.
Non mais évidemment il y a un problème du racisme en Argentine, il faut le dire. Il y a souvent des problèmes de chants dans les stades pour la Copa Libertadores par exemple, quand les équipes argentines reçoivent des équipes brésiliennes. Après oui, moi ce qui m'a je veux pas minimiser du tout, au contraire je le condamne, mais moi ce qui m'a un peu agacé, c'est que c'est vrai qu'on a un peu mis l'Argentine,
c'est une réalité sociale, le racisme en Argentine,
c'est une réalité sociale, mais ouais. C'est une réalité sociale aussi en France, bah,
bien sûr,
aussi.
Bien sûr, évidemment.
Donc moi je trouvais que
on est une société très très
exactement, pareil. Mais
historiquement très mélangée,
mais c'est vrai
le cas de l'Argentine,
mais c'est vrai que ce chant,
c'est sûr, il n'y a aucune fracture,
mais t'as raison,
il n'y a pas de fracture sociale en France, tout va bien
Stéphane sur ça, mais c'est vrai que ce chant là on l'avait dit à l'antenne après les célébrations à Buenos Aires, il a été entendu, surtout quand on est français et qu'on est journaliste, on parle français, on passe à l'antenne, évidemment il y avait quelques abrutis qui venaient derrière et qui chantaient ce chant là, mais moi je peux vous dire que j'ai croisé plein d'Argentins qui n'étaient pas du tout d'accord avec ce chant-là, qui l'ont condamné, évidemment. Qui respectent beaucoup Mbappé,
Mimoune ne disait pas que tous les Argentins étaient racistes hein, non plus. Hein,
non, voilà, non, oui, mais c'est vrai qu'en fait, on fait tout un espèce de. Tout un panier de trucs négatifs pour enlever de
bon, revenons
au sport. Excuse-moi Daniel, mais de dire en gros, de résumer le jeu de l'Argentine, à dire que c'est les mecs qui pourrissent le jeu et tout
incroyable.
Ça. En fait, pour moi, c'est des espèces de caricatures. C'est comme quand on dit que les Japonais, ils sont toujours cadrés, super éduqués, que les joueurs africains, ils sont physiques et tout ça. Les Sud-Américains, c'est des voyous. En fait, et moi je trouve que ça, en fait, on reproduit en permanence des espèces de caricatures qui, moi, m'agacent complètement.
La grande tradition française d'être mauvais perdant et de toujours chialer dès que t'es battu et d'aller trouver que l'autre c'est un bandit, qu'il a été aidé par l'arbitre, qu'il a volé le match, qui joue comme de la merde. Ça, cette grande tradition sportive de l'arrogance et du mauvais perdant, ça, on peut en parler ou on peut pas en parler? 2006, c'était la même chose. 2022, non,
je crois
c'est la même chose.
Je crois au contraire.
C'est tout le temps. C'est tout le temps.
Je crois qu'au coup de sifflet.
Les Allemands, c'est des gros bourrins. Mais tous les pays sont affublés de tous les maux dès qu'ils battent la France. Ça, c'est extraordinaire.
Moi, j'ai trouvé ça.
La même chose en rugby. Les Anglais, c'était des salopards. C'est tout le temps comme ça. Mais ça, on n'a pas le droit d'en parler, ça, de cette grande tradition française du sport. Ça, on n'a pas le droit, ça.
Alors, moi, je rentre pas
dans la faute à l'arbitre.
Je ne rentrerai pas dans ton jeu.
Ça, Daniel, c'est pas une tradition,
pas
ça.
Sur ce terrain-là. Moi, je crois simplement qu'à la fin de ce match. Non, mais moi, je crois qu'à la fin de ce match. En tout cas, moi, j'étais de ceux qui étaient. J'avais dit avant le match, de toute façon, on sera content parce que d'un côté, on aura notre équipe de France qui sera championne du monde. Et de l'autre côté, l'Argentine qui a été l'équipe sensationnelle de cette Coupe du Monde. Et puis, par rapport à l'histoire personnelle de Messi, je pense qu'il y a beaucoup de gens en France, dans les passionnés de foot, qui avait aussi envie que ça se termine comme ça pour Messi. Et je trouve, justement par rapport à ce postulat-là, que l'après-match, les célébrations ont gâché ça, parce que je pense que on était très majoritairement en France.
Mais ça a gâché
ce que tu décris, Daniel, c'est pour moi c'est hors sujet.
Mais ça a
sur
gâché
ce moment-là,
quoi ça a
par
gâché
contre,
quoi
le comportement de Martinez,
les
etc.
S'exprimer sans
ça,
crier.
Ça, oui, ça a fait que tout à coup il y a eu une espèce de remontée de menton un peu français en disant.
Moi, je veux pas les nous prêter.
Ça a touché beaucoup de gens dans le monde.
Je plein les défendre à tout prix, mais qu'est-ce que tu voulais, Stéphane, en fait? Tu voulais qu'il fête ça de manière civilisée dans les rues de Buenos Aires
du monde, en Russie contre la Croatie. Mais en fait, on a célébré la victoire d'avance. On n'a pas, passé notre vie à.
C'est foutu de la gueule des Belges pendant 2 ans, mais à part ça, c'était nickel.
Mais en fait, Chambray, alors après, Chambray, ça peut être.
Et après, on clôture ce dossier pour parler de la
façon de célébrer. Moi,
mais ça, tu l'expliques.
Je prends. C'est fini. Le Grette qui envoie une lettre au président de la fédération.
Quand tu vois où est le Grette aujourd'hui, c'est le gars qui pouvait envoyer une lettre.
C'est une compréhension totale de ce qu'est le foot argentin.
Bon, quel avenir maintenant pour cette équipe, Georges?
Envoie une lettre.
Quel avenir, parce que est-ce que tu penses qu'il va y avoir une sorte de baisse de régime avec les années qui passent? Scaloni, il était contesté avant la Coupe du Monde. Là, bon, on y va maintenant.
Avant la Coupe du Monde, avant la Coupe América, il était un peu contesté.
On en avait parlé. Bon, là, comment tu les vois là pour la suite? Est-ce que tu estimes, par exemple, que dans 4 ans, ils seront encore dans les camps?
Est-ce que Bilardo avait fait Copa América, Coupe du Monde ou Scaloni?
Non, jamais.
Scaloni est le premier.
Ouais, exactement. Là, de toute façon, ils n'ont pas de sélectionneur pour l'instant, hein, parce que Scaloni n'a pas encore signé son contrat. Il doit aller à Buenos Aires dans les prochains jours. A priori, ça va le faire quand même. Il devrait signer jusqu'en 2026, jusqu'à la Coupe du Monde. De toute façon, tous les joueurs le veulent. Le Comex argentin le veut. et Claudio Tapia, le président de la Fédé aussi. En fait, le problème, c'est que c'est difficile de
savoir.
C'est
un joueur, le président? Non.
Ouais, il a joué dans un club.
Non, c'est pas
de la banlieue de Buenos Aires.
Il y a eu un Tapia.
Ouais, il avait, mais c'est pas celui-là. Mais il a beaucoup les Tapia en Argentine. Mais non, voilà. Maintenant, l'objectif, ça va être la Copa América. Le problème, c'est que c'est difficile de savoir où ils vont aller parce que c'est difficile de savoir si Messi va continuer. Donc, s'il continue ou pas, la formation de l'équipe va être complètement différente. Il faut voir aussi si ces joueurs-là vont pas avoir une baisse de régime. Justement, les Paredes, les De Paul, tout ça qui peut-être surperforme depuis quelques années, justement parce qu'ils voulaient emmener Messi vers le Graal, il faut voir. Voilà, il va déjà avoir un premier élément de réponse fin mars, parce qu'il va y avoir 2 matchs amicaux en Argentine. D'ailleurs, si le PSG est encore en Ligue des Champions, ça leur ferait pas beaucoup plaisir de voir Messi partir en Argentine à ce moment-là, parce que d'habitude, les Sudam, ils font pas de match amicaux chez eux. Mais là, vu que l'Argentine veut absolument fêter ses héros, ils vont faire ça à Buenos Aires. On sait pas encore quels vont être les matchs amicaux, mais ça va nous permettre de savoir un peu quel va être l'avenir de cette équipe-là, avec évidemment la Copa América qui arrive. Mais il y a des jeunes joueurs qui sont intéressants et qui vont pouvoir, il y a déjà Alvarez et Enzo Fernandez qui sont là. Mais par exemple, il y a des joueurs comme Garnacho, qui est à Manchester United, qui est dans la rotation, McAllister. Donc, moi je les vois continuer.
Il y a l'avocat qui a dit qu'il arrêtait, sauf erreur de ma part.
Ben, même Di Maria, qui avait dit qu'il allait arrêter, finalement veut continuer encore un peu plus. Moi je les vois bien continuer, ces joueurs-là, parce que justement ils ont attendu tellement toute leur vie d'avoir ce moment de partage avec leur public. Ça, c'est ce qu'on réalise pas aussi en étant ici, que finalement ils vivent leur rêve là. Messi, il va vivre son rêve en venant à chaque fois en Argentine, en allant jouer à droite à gauche dans toutes les villes du pays, et enfin à avoir cette reconnaissance qu'il n'a pas eu toute sa vie. Donc, c'est difficile de savoir s'ils vont être au niveau en 2026. Mais moi, j'ai quand même foi en Scaloni et en ce staff technique-là. Ils sont très sérieux. Et s'ils restent, s'ils continuent, c'est que justement, ils ont une idée bien précise de ce qu'ils veulent faire. Donc, attention, ça peut continuer, les Argentins.
Bon, on a tout dit. Il pourrait nous raconter maintenant l'histoire détaillée du club Defensa et Justicia, Défense et Justice, ou alors qu'est-ce qu'il y a comme club de ouf encore à Buenos Aires, il y en a tellement.
Bon, je crois qu'il y a plus de clubs à Buenos Aires qu'à Londres, hein, d'ailleurs.
C'est quoi ces deux stades qui sont dans la même rue, là? Raconte tout ça quand même, parce que c'est quand même incroyable.
Dans la banlieue
c'est pas unique
sud
au monde, parce que c'est le cas à Dundee et à
banlieue sud de Buenos Aires.
On aime bien le foot argentin, les petites histoires. Hein. Après, c'est des sauvages qui savent pas se comporter, mais on aime bien la passion, la raconter.
Quand c'est pas contre nous, ça va.
Ouais, c'est ça.
C'est le folklore, c'est le carnaval. Mais oui, dans le sud de Buenos Aires, dans la banlieue sud, donc Avellaneda, la ville d'Avellaneda, qui serait un peu, je sais pas, comme Saint-Denis finalement en termes de distance. Il y a deux énormes clubs qui sont Racing Club, le club notamment de Lisandro López, où il est une star là-bas, et Independiente, qui est un des plus grands clubs d'Amérique latine, celui qui a gagné le plus de Copa Libertadores. Et oui, les deux stades sont à 300 mètres l'un de l'autre. C'est-à-dire que vous êtes dans la tribune du Cilindro, le stade de Racing, vous regardez en haut, vous voyez la tribune qui est en face. Et donc, les rues de la ville sont coupées quand il y a des classicos entre les deux équipes. Donc, c'est assez piquant.
Et le champ
piquant.
On a une minute.
Oui,
championnat d'Argentine, au quotidien, toi qui vis là-bas et qui donc le vis, est-ce qu'il est intéressant? Est-ce qu'il est. Comment ça. Parce que nous on a la vision du foot argentin qu'on a, c'est les expatriés et qui sont tous des joueurs pas ordinaires de toute façon, quoi.
Non, le niveau baisse quand même depuis quelques temps par rapport au Brésil par exemple, qui a plus de moyens. En Argentine, le problème c'est que le football local est complètement désorganisé, ça n'y a rien à comprendre. Pour vous dire, là ça reprend demain d'ailleurs le championnat, il y a 28 équipes en première division. 28 équipes, je crois qu'en deuxième division, il y a plus de 30 équipes.
Il y a un moment, il y en avait plus, hein.
Ouais, à un moment, il y en avait plus. Mais en fait, ça fait des années qu'ils disent, on va essayer de revenir à 20 équipes et avoir quelque chose un peu plus, ordonné. Et c'est vrai que ça allait pas. Donc, même les calendriers, les matchs, tu sais pas, une semaine avant, quand est-ce que ça va se jouer. Donc, il y a toute une désorganisation.
Mais les stades sont pleins, par exemple. Il y a une passion,
évidemment. Il y a un nombre de Boca à 300 000 socios. Le chiffre est sorti aujourd'hui. Il y a pas assez de place pour que les gens rentrent à la Bombonera, très clairement. Donc, non, il y a un niveau de passion énorme et le championnat est suivi. Mais c'est vrai que comme le Brésil maintenant a ouvert tous ses clubs aux investisseurs privés étrangers, les Argentins qui ont que des clubs à socios, des clubs des associations à but non lucratif, ils commencent à plus du tout arriver à rivaliser avec les moyens du Brésil. Donc c'est pour ça que les 4 dernières finales à Copa Libertadores, c'était 4 vainqueurs brésiliens. Donc il faut voir si sur la durée l'Argentine arrive à maintenir son niveau de formation. Pour l'instant toujours, parce qu'il y a quelques clubs comme River Plate, comme Vélez Sarsfield, qui sont toujours des nids à champions, et ils arrivent toujours à avoir ces moyens de formation. Mais ouais, avec l'actualité économique, quand t'as 100% d'inflation, quand ta monnaie se casse la gueule en permanence, c'est difficile de pouvoir construire quelque chose à tous les niveaux dans ce pays, malheureusement.
Julien Gallardo, il en est où?
Il était entraîneur des All-Stars d'Arabie Saoudite, là. Vous l'avez vu? Gallardo, Marcelo Gallardo, méga star en Argentine.
Comment on l'annonce?
Il a tout gagné avec River Plate. J'inviterai n'importe quelle équipe d'Europe à se pencher sur ce garçon s'ils ont besoin de quelqu'un qui a une vision, qui a un projet. C'est le meilleur entraîneur d'Amérique du Sud depuis des années.
En Arabie Saoudite aujourd'hui?
Non, donc il a laissé River Plate après plus de 8 ans, il a tout gagné.
Donc là, il est libre.
D'autant, quand tu gagnes tout dans un pays où tous les ans, pratiquement ton effectif change parce que pratiquement tout part, donc c'est une sacrée performance.
C'est capable de mettre Neymar sur le banc, lui?
Pardon?
Il pourrait mettre Neymar sur le banc, parce qu'au PSG, il cherche un entraîneur depuis pas mal de temps.
Ouais, je pense qu'il en a grosse accolade avec Messi l'autre jour. Ça a été beaucoup observé en Argentine, tout ça. Donc
lui est libre. Aujourd'hui, il est libre.
Il est libre, il a laissé River Plate. C'est pour ça qu'il a entraîné du coup cette équipe d'All-Star saoudien. Donc il cherche un banc en Europe. Et moi, je sais que la France l'intéresse. La France l'intéresse beaucoup à Marcelo Gallardo. Il est régulièrement à Monaco, il est retourné il n'y a pas longtemps, il aime bien Paris. Lyon a essayé sur lui plusieurs fois.
Il est remplacé par Gallardo. Quand tu connais l'histoire entre les deux dans le tunnel du Vélodrome il y a quelques années, ce sera assez drôle.
C'est vrai.
Mais il se prépare à ça, Marcelo Gallardo, maintenant, pour venir en Europe. Et vraiment, parmi ceux que souvent on vend des entraîneurs sud-américains comme ça, lui, c'est quand même du sérieux. Quoi.
Donc, même il a fait combien 8 ans, tu dis, à River Plate?
8 ans,
C'est pas n'importe quoi. Hein.
Merci Georges.
Merci.
À bientôt.
Merci
pour reparler foot argentin ou autre chose. Fonction de tes voyages. Dans un instant, on est de retour avec Fred Hermel, notamment pour débriefer le match Real Atlético.